Bonjour à tous. Merci aussi pour ce dernier chant. Il est parfait. Parfaite introduction pour un temps où on médite l'écriture. Voilà, je voudrais simplement prier pour commencer. Tu nous invites à un festin, Père, parce que ta parole est une nourriture abondante. Et c'est une parole qui n'est pas un luxe, c'est une parole nécessaire. C'est une parole indispensable à notre vie. Lorsque nous en sommes privés, nous mourons. Mais lorsque tu nous la donnes, nous vivons dans l'abondance. Et c'est ce que nous prions, que ce soit exactement l'effet que ta parole ait sur nos cœurs aujourd'hui, alors que nous méditons l'Écriture. Merci, dans le nom de Jésus. Amen. Il y a quelques jours, j'ai découvert les chiffres suivants. Dans le monde, selon l'ONU, une femme sur trois a été victime au moins une fois dans sa vie de violences physiques ou sexuelles. En France, en 2024, 1300 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou se sont suicidées à cause de harcèlement conjugal. Cette même année 2024, en Suisse, il y a eu 20 féminicides et la Suisse apparaît comme un lieu privilégié pour la femme, un lieu protégé. Alors évidemment que face à ces tragédies, il y a des femmes qui se sont constituées en association pour que les choses changent. Et en particulier pour que quand une femme va dans un commissariat de police, en France en particulier, qu'elle soit prise au sérieux. Et puis pour que la loi soit modifiée afin que les hommes coupables de ces violences.
Oui, un micro. Ah, c'est comme ça. Est-ce que ça frotte?
Ah, d'accord, ok.
C'est mieux.
Ça frotte. Ouais, ça va mieux alors maintenant. Donc, ces associations de femmes se constituent aussi pour obtenir que la loi soit changée pour que les hommes coupables de violences conjugales soient plus sévèrement punis. Alors, ça a une efficacité, hein. La loi a été changée en France et bon. Malheureusement, le problème des rapports entre hommes et femmes ne se limite pas à cela. Il n'est pas réglé pour autant. Et en réaction aux inégalités de rapports entre hommes et femmes, eh bien, le féminisme, celui qui est né au 19e siècle, a milité pour modifier cette situation et aussi pour obtenir, pour permettre que les femmes obtiennent certains droits. À l'époque, c'était le droit de voter, ça a été le droit d'avoir un compte en banque, le droit d'avoir un salaire égal à celui des hommes. Et puis, ça a évolué dans le temps et c'est devenu le droit d'avorter, le droit de divorcer dans certains pays, le droit de se marier avec une femme pour les femmes. Voilà, ou les hommes pour les hommes, mais là, il s'agit des femmes. Et puis, depuis quelques années, le wokisme a pris le relais en affirmant que le principal responsable des désordres du monde, c'était l'homme blanc qui a des convictions chrétiennes, qui est généralement bien éduqué et qui est binaire. C'est-à-dire, il croit qu'il y a un sexe masculin et un sexe féminin. Ça, c'est absolument terrible. Et c'est donc lui qui serait à l'origine de l'oppression dont sont victimes les femmes, en particulier si elles sont noires ou immigrées, si elles sont homosexuelles, si elles sont pauvres ou peu instruites. Et là, le wokisme, il parle de, comment est-ce qu'on appelle ça? D'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'une femme peut être victime de plusieurs discriminations à la fois. Alors c'est leur grand sujet. Et donc vous vous en êtes certainement rendu compte, tout cela, ça a pour effet d'entretenir un climat général de suspicion vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis du genre masculin. Parce qu'ils sont hommes, les hommes incarnent forcément une forme dangereuse de patriarcat. Si on a affaire à des hommes ambitieux ou qui sont des leaders naturels, évidemment que ça ne peut que pour être exploité les plus faibles. Donc, abat ces hommes qui appartiennent à la préhistoire et vive les hommes déconstruits, les hommes qui n'ont pas honte de pleurer. Les hommes qui pensent qu'il y a une égalité absolue dans tous les domaines entre hommes et femmes et qui soutiennent la carrière de leurs femmes en restant à la maison pour s'occuper des tâches ménagères et s'occuper et éduquer les enfants. Ça, c'est le top pour un certain mouvement. Et dans ce paysage, je dirais nouveau, pour ne pas le qualifier de manière désagréable, il reste un groupe d'irréductibles, qui n'est pas gaulois, quoiqu'il y ait probablement des gaulois parmi eux, qui s'intitulent eux-mêmes, qui s'appellent les masculinistes. Et généralement, ils ont des tatouages sur leurs gros bras, ils fument le cigare, ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont un amour très ostensible pour les grosses voitures de sport. Et puis, ils se vantent de leurs multiples conquêtes féminines. En fait, ce qu'ils veulent, c'est qu'on comprenne bien clairement qu'ils ne sont pas des caniches, mais qu'ils sont forts et qu'ils peuvent même être dangereux. Quand vous entendez ça, peut-être que vous vous lamentez un petit peu. Vous dites non, mais c'est complètement désespérant comme tableau. Néanmoins, il y a quelque chose qu'il faut noter. C'est que les féministes, les wokistes, les masculinistes, ils reconnaissent tous, chacun à leur manière, qu'il y a un problème entre les relations, dans les relations hommes-femmes. Il y a un sérieux problème. Il faut reconnaître, ou en tout cas, eux nous le rappellent, c'est que pour une majorité d'hommes et de femmes, eh bien, on ne se sent pas naturellement en sécurité dans la présence l'un de l'autre. Et ce problème, c'est pas juste dans le monde. C'est un problème qui se retrouve dans l'Église. Alors, on peut se dire, mais alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? En tant que chrétien, on devrait savoir quoi faire. En fait, on a besoin de retrouver le modèle original des relations pour le couple. Et ça, on peut le retrouver dans l'Écriture. Et c'est ce que je voudrais vous inviter à une petite excursion dans les premiers chapitres de la Genèse, où là, Dieu nous donne, nous permet de comprendre comment il a conçu les relations entre hommes et femmes. Alors, il y a une première chose que la Bible nous apprend qui est d'une extraordinaire importance pour nous tous, hommes et femmes, c'est qu'il nous a créés à son image. Et ça, franchement, c'est une nouvelle absolument fondamentale qui a été perdue dans beaucoup de sociétés, par beaucoup de religions. Il n'y a que le christianisme qui affirme très clairement que l'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. On voit ça en Genèse 1, 26. Là, au sixième jour de la création, Dieu déclare son intention de faire l'homme à son image pour qu'il domine sur les animaux qu'il vient de créer, c'est-à-dire les poissons, les oiseaux, tous les animaux qui courent sur la terre. Et puis au verset 27, eh bien, Dieu fait ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé, il crée l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu, il le crée homme et femme. Précision extrêmement importante. Et là, on se trouve au point culminant de la création. Parce que Dieu, après avoir séparé les ténèbres de la lumière, après avoir séparé les eaux du dessous des eaux du dessus, après avoir placé le soleil pour éclairer le jour, le soleil dans le ciel pour éclairer le jour et la lune pour éclairer la nuit, eh bien, Dieu crée en tout dernier l'homme et la femme à son image pour qu'il domine toute sa création. Et ce premier chapitre, il se termine par une remarque qui est absolument révélatrice. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Quand le sec, on lit dans le premier chapitre, quand le sec est apparu, Dieu dit, c'était bon. Quand la verdure, les plantes et tout ça sont apparues sur la terre, c'était bon. quand il a placé la lune, etc., les luminaires, c'était bon. Et il dit la même chose à propos des animaux qu'il crée, c'était bon, c'était bon, c'était bon. Mais quand il crée l'homme et la femme, à qui il destine la jouissance de toute sa création, alors là, Dieu dit, ça c'est très bon. Vous comprenez donc que ça n'est qu'après avoir créé l'homme et la femme et leur avoir donné la jouissance de sa création que Dieu est parfaitement et absolument satisfait de son œuvre. Ça vous dit l'importance que Dieu nous donne. C'est absolument époustouflant. Dieu nous a placés vraiment au sommet de sa création. Alors, à ce stade, il y a deux choses très importantes à noter, qui sont un petit peu un rappel. C'est que la femme, comme l'homme, est à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'elle est aussi précieuse à ses yeux que l'homme. Et puis, deuxième point, que la femme, comme l'homme, reçoit le mandat de dominer la création. Qu'est-ce que c'est que dominer la création? C'est toutes les activités que vous pouvez imaginer pour maintenir et développer la vie dans ce monde. Une profession qu'on exerce, du jardinage, éduquer les enfants, tout cela, ça fait partie de ce domaine de maîtriser la création. Et donc Dieu associe clairement l'homme et la femme pour accomplir cette mission, mission qu'il résume au verset 28, où on lit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre. » Voilà pour Genèse 1 et son grand récit général de la création. Et en Genèse 2, Moïse, qui est l'auteur de ce texte, il zoome à présent sur un aspect particulier de la création. C'est la création de l'homme et de la femme. Et là, il annonce que Dieu a d'abord créé l'homme et ensuite la femme. Et la création de l'homme, elle se passe en deux temps. On voit ça au verset 7 à 19 du chapitre 2. Ce passage, ce segment, il nous parle du temps où Adam était seul. Et donc, je résume rapidement ce qu'on voit dans ces versets. Hein. Dieu forme Adam de la poussière, et puis il souffle en lui, il insuffle la vie en lui. En soufflant en lui, il le place dans le jardin d'Éden qu'il avait préparé pour lui, afin qu'il le cultive et qu'il le garde. Ça, c'est un mot important, il doit garder ce jardin. Et puis il lui donne la jouissance de tous les arbres du jardin, à l'exception de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, il lui donne un avertissement très solennel. Le jour où tu en manges, tu meurs. Le verset 18, lui, nous fait passer à la deuxième phase de la création de l'homme. Dieu prend alors une décision qui est d'une portée absolument immense. Cet homme qu'il a créé à partir de la poussière, il constate que c'est une créature qui est incomplète. Il lui manque quelque chose. Et Dieu prend la décision de lui faire une aide semblable. Alors, on peut supposer que ce projet a pris quand même un certain temps avant qu'il se réalise pleinement, parce que Dieu, il a une idée qui peut paraître un petit peu étrange, mais avant de donner à Adam cette aide semblable, il fait venir tous les oiseaux et tous les animaux des champs vers Adam pour voir comment il les nommerait, afin que tout animal porte le nom qu'Adam lui donnerait. Et ici, on peut se poser la question, mais qui a appelé la lumière jour et qui a appelé les ténèbres nuit? Qui a appelé l'espace qui est au-dessus de la terre ciel? Qui a appelé le sectaire? Qui a appelé l'amas des eaux mer? C'était normal que, alors qu'il crée les choses, Dieu donne des noms, parce que Dieu créer de manière ordonnée et donner un nom, c'est mettre de l'ordre dans le chaos. Donc c'était normal qu'il fasse cela. Mais maintenant que tout existe, Dieu confie à l'homme la responsabilité de nommer ce qui n'a pas encore de nom. Et en faisant venir vers Adam les animaux pour voir comment il les nommerait, eh bien Dieu l'investit d'une partie de son autorité de créateur. Ce qui souligne une nouvelle fois que Dieu a vraiment été créé à l'image de Dieu. Dieu partage un certain nombre de choses avec l'homme. Et il en fait le gérant de ce fait, il en fait le gérant de sa création. Alors, revenons à Adam. En examinant les animaux, Adam, il a dû assez rapidement se rendre compte qu'au sein d'une même espèce, il y avait des différences. Et donc, il a appelé un tel animal poule et l'autre coq. Et puis, il a appelé une autre créature chimpanzé. Et l'autre, femelle du chimpanzé. Et vous imaginez le temps que ça a pu lui prendre. Parce que tous les oiseaux du ciel, et simplement le bétail, les animaux des champs, ça fait déjà un bon nombre. Il a dû étudier chacun. Ça lui a pris, mais le temps ne comptait pas vraiment à cette époque-là. Il n'avait pas de souci à ce niveau-là. Mais ça a pris du temps. Et ce travail terminé, eh bien, Dieu a plongé Adam dans un très profond sommeil. Et pendant qu'il dormait, l'Éternel a formé, nous dit le verset 22, l'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, c'était un expert de l'étude animale. Quand il a vu cet être arriver, il a dit, oh, il n'y a pas de doute là. Voici enfin! Il dit, voici enfin! Waouh! J'ai vu tous ces animaux, mais alors j'ai vu personne qui me ressemblait, mais alors là, c'est clair! Elle me ressemble, elle est haut de mes os et chair de ma chair. Elle a été tirée de l'homme, et c'est pour ça que je vais l'appeler Isha. Puisque homme, c'est Ish, elle sera Isha, la femme. C'est comme si on disait homme, homesse, par exemple. C'est moins gracieux, mais vous comprenez l'idée. Et alors, avec ce verset, on assiste, là, on est dans le solennel dans les premiers chapitres, dans les 11 premiers chapitres de la Genèse, c'est complètement fou, parce qu'il y a tellement d'aspects fondamentaux qui sont posés. Mais là, on assiste à la naissance de l'humanité. On est au premier jour de l'an 1 de l'humanité. C'est pas rien. C'est vraiment un moment historique, parce que désormais, l'homme et la femme sont prêts à entrer dans la mission de Dieu. Et ensemble, ils vont pouvoir être féconds, multipliés, croître, remplir la terre, la dominer. Et comme cela, ça implique des générations d'hommes, eh bien Dieu introduit une règle fondamentale. L'homme devra quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Et ça se passera de génération en génération. Et au verset 25 de ce deuxième chapitre de Genèse, on termine sur un constat absolument magnifique. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Non, parce qu'ils étaient normaux. Ils étaient dans leur état normal. Dans leur état de créature originale ou originelle. Et puis, c'est magnifique parce que ils se trouvent dans le meilleur des mondes possibles. Adam n'est plus seul. Dieu lui a donné la partie qui lui manquait, c'est-à-dire cette personne qui est à la fois semblable et différente de lui. Et tous les deux, ils allaient représenter le Créateur aux yeux de toute la création. Alors, grande question sans réponse. Combien de temps cette belle harmonie a duré? Total mystère, on ne sait pas. Mais en tout cas, une chose qui est claire, c'est qu'avant la naissance de leur premier enfant, ils se retrouvent à poser une question totalement inattendue. C'est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et au début de Genèse 3, on assiste à une scène absolument insolite. C'est que Ève s'entretient avec une créature qu'Adam avait nommée serpent. Et Moïse précise au premier verset qu'il était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et c'est ce serpent qui pose la question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Oui, le serpent, il est très bien renseigné parce qu'il était dans le jardin quand Dieu a parlé à Adam. Il a entendu ce que Dieu a dit à Adam. Et c'est ce qu'il utilise maintenant. Et voilà que la question se pose maintenant. Pourquoi cet interdit? Comment est-ce qu'on peut réconcilier cet interdit avec ce Dieu qui est tellement généreux, qui est tellement bon? Et la suite logique, c'est « mais c'est impossible !» C'est impossible de réconcilier ça. Et en fait, le serpent aide un petit peu Ève à comprendre que, en réalité, ce que Dieu veut, c'est empêcher l'homme et la femme d'accéder à toute la connaissance à laquelle ils pourraient accéder. Et le serpent leur explique, ou lui explique, que en mangeant de l'arbre de la connaissance, vous pourrez devenir vous-même comme des dieux. Vous serez vous-même en mesure de définir ce qui est bien et ce qui est mal. Vous aurez enfin gagné votre autonomie. Pourtant, dans son esprit, Adam sait que Dieu lui a imposé une limite stricte. Sans cette limite, il lui sera impossible de devenir l'homme que Dieu l'appelle à être. Pourquoi? Parce que respecter cette limite, c'est reconnaître à Dieu sa seigneurie sur lui. Et c'est du même coup embrasser sa propre condition de serviteur de Dieu. Alors vous voyez jusque-là, la vie d'Adam, ça avait été une expérience plutôt bienheureuse où avec sa femme, il avait bénéficié de tous les dons de Dieu. Et au fond, Adam et Ève, elle s'appelle pas encore Ève, Adam et la femme sont en quelque sorte dans l'enfance de leur humanité, dans l'enfance de l'humanité. Il y a des choses qu'ils n'ont pas encore discernées et vues. Mais ce qui était clair, c'est que pour vivre en image de Dieu, pour devenir créature spirituelle, ils devaient obéir à Dieu et à Dieu seul. Et pour cela, ils devaient tous les deux obéir au commandement que Dieu avait donné. Tout comme Dieu obéit à sa propre parole. Dieu ne dit pas une chose et il fait le contraire. Dieu lui-même est soumis à sa propre parole et il demandait à Adam d'être soumis à sa parole en tant qu'image de Dieu. Seulement, Adam et sa femme ont affaire à une créature diaboliquement rusée. C'est pas le serpent en lui, c'est un esprit qui s'est saisi du serpent pour faire ce travail. Il y a une créature diaboliquement rusée, parce que, en plus de faire croire à l'homme et à la femme qu'ils pourraient devenir comme des dieux, il s'est adressé à la femme plutôt qu'à Adam. Pas parce qu'elle était plus susceptible d'être trompée, mais parce que, sans doute, c'était une manière pour le serpent de provoquer un conflit de loyauté dans le cœur d'Adam en l'obligeant à choisir entre plaire à sa femme et plaire à Dieu. Et ça, c'était rusé. Ça, c'était puissant. Et donc, quand la femme a offert à Adam du fruit dont elle venait de manger, Adam, il n'avait plus les idées très très claires. Le commandement de Dieu lui paraissait plus aussi essentiel et absolu. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est au début de la conversation que la femme a entreprise avec le serpent qu'il aurait dû intervenir, parce que c'était lui le gardien du jardin. Or, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que Adam a été aux côtés de sa femme tout du long, mais qu'il a rien dit. Et c'est pendant ce silence que le serpent a réussi à l'embobiner, a réussi à le faire douter et à renverser complètement sa compréhension des choses. Et finalement, il a réussi à séduire Adam, qui a finalement conclu, en fait, manger de ce fruit pour acquérir une telle connaissance, une telle intelligence, ça peut pas être mal en soi. Je sais pas si vous êtes déjà trouvé dans des situations où vous observez que quelque chose réellement n'est pas juste. Soit c'est dans votre vie, soit c'est dans la vie des autres, dans les relations, à l'église ou à l'extérieur. Mais on dit rien. On dit rien. Mais on sait que c'est faux. On dit rien. Et à mesure que le temps passe, finalement, on arrive au point où on dit, bah, en fait, c'est pas si grave. Et on arrive même au moment où, enfin, ça peut arriver, on en vient à approuver ce qu'on réprouvait au départ. Parce qu'on est resté silencieux. Parce qu'on n'a rien dit. Et c'est probablement ce qui est arrivé à Adam. Il a rien dit. Qui dit rien consent, d'une certaine manière. Alors, après qu'Adam et sa femme aient mangé du fruit, la parole du serpent s'est en partie réalisée. Leurs yeux se sont ouverts. Ha! Oui, mais pour découvrir quoi? Qu'ils étaient nus, mais c'était pas un problème avant. Ils étaient nus pour découvrir qu'ils ont honte d'eux-mêmes, qu'ils ont honte l'un de l'autre, et que l'idée de rencontrer Dieu maintenant les terrifie. Et on lit au verset 9, le verset 9 nous apprend que vers le soir, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu ? » Et Adam répond, « J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché parce que je suis nu. » Et Dieu poursuit, « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Et là, la réponse d'Adam est terrible. C'est une telle insulte vis-à-vis de Dieu. Parce que sa réponse revient à dire, « La femme que tu m'as donnée pour me compléter, c'est elle qui a été un piège pour moi. » C'est horrible. C'est ce que l'islam dit des femmes. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu demande en priorité des comptes à Adam alors que c'est Ève qui a péché la première? Il faudra revenir sur cette question plus tard. Au verset 13, on voit que l'Éternel se tourne maintenant vers la femme. Il lui dit, mais pourquoi as-tu fait cela? Elle lui répond, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Elle non plus, elle ne reconnaît pas franchement que le problème, c'est sa désobéissance. Elle dit, c'est la faute du serpent. Alors, dans les versets suivants, Dieu s'adresse au serpent pour le maudire et lui annoncer qu'il y aura inimitié entre sa descendance, c'est-à-dire tous ceux qui vont suivre son chemin de révolte. Le premier d'entre eux, Caïn. Il y aura inimitié entre sa descendance et celle de la femme. Et cette descendance, c'est celui qui naîtra d'elle et qui écrasera la tête du serpent pour sauver la vie de ceux qui auront été trompés par le serpent au long des siècles. Et voyez ici, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on parle souvent d'Adam et de Jésus, le second Adam. Adam représentant l'humanité, tous les hommes. Mais ici, la femme, elle représente aussi toutes les femmes. Et la malédiction que Dieu prononce contre elle, c'est-à-dire les souffrances liées à la grossesse et à l'enfantement, le fait que ses désirs se porteront vers son mari, mais qu'il dominera sur elle, tout ça, ça s'applique aux femmes. Tout ça, c'est le vécu des femmes. Et puis, vient le tour d'Adam. Et là, Dieu lui met les horloges à l'heure. Et il lui dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme, au lieu de t'en tenir au commandement que je t'ai donné, et que tu as désobéi au commandement de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le sol est maudit à cause de toi. Il te produira des épines et des ronces. C'est au prix d'un travail pénible que tu en tireras ta nourriture. Et tu retourneras finalement à cette poussière dont tu as été tiré. C'est un moment terriblement sombre. La malédiction que Dieu prononce contre Adam s'étend aussi à tous les hommes. Et ça frappe l'ensemble de la création. C'est ce que Paul dit en Romains 8. Mais pourtant, au milieu de cette obscurité, il y a une petite flamme qui s'allume. À partir de ce jour, Adam et sa femme font leur premier pas de foi. Parce que Dieu, conformément à l'avertissement qu'il avait donné à Adam, il chasse l'homme et sa femme du jardin pour qu'Adam tire désormais sa subsistance de ce sol qui est maudit, pour qu'il souffre et pour que finalement il meure lui-même, puisque Dieu a placé des chérubins pour l'empêcher d'accéder à l'arbre de vie et de continuer de vivre. Mais il faut néanmoins noter deux choses qui sont très importantes et qui justement allument cette petite lumière. Deux événements qui se passent avant l'expulsion d'Adam et Ève. C'est d'abord que Adam donne à sa femme un deuxième nom. Désormais, il l'appelle Ève. Et Ève, ça veut dire mère de tous les vivants. Ce qui suppose, de la part d'Adam et de sa femme, qu'ils ont foi en ce que l'Éternel a dit au serpent. Il y aura inimitié, mais la descendance de la femme vaincra. Ils ont foi en cela. La preuve, c'est qu'ils vont avoir des enfants. Ils vont donner naissance à la filiation qui conduira jusqu'à Christ et qui commence avec Abel, qui suit avec Seth, avec Enoch, avec Noé, avec Abraham et ainsi de suite. Le deuxième événement très important, c'est que Dieu fait à Adam et Ève des vêtements de peau, ce qui suppose qu'il a pris la vie d'animaux pour couvrir leur honte. Et ça suggère le vêtement de justice dont revêtira Dieu tous ceux qui mettront leur confiance en la descendance qui vaincra le serpent. Alors maintenant, il faut récapituler. Qu'est-ce que ces chapitres de Genèse nous apprennent sur les rapports homme-femme? Ben, ils nous apprennent une chose très simple. C'est que ils étaient bons, mais ils seront désormais caractérisés par des conflits. Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Et on le voit en Genèse 3:16, quand Dieu annonce à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il y a une question ici. C'est quoi ces désirs? C'est quoi ces désirs? C'est très important de le comprendre. Alors certains pensent que ça évoque les désirs sexuels de la femme. Bon, mais si c'était le cas, ça reviendrait à dire que les désirs sexuels de la femme sont une malédiction pour elle, comme les douleurs de la grossesse et de l'enfantement. Ça paraît pas tout à fait en accord avec ce que l'Écriture dit, parce que l'Écriture, d'autre part, dit que une des missions que l'homme et la femme ont, c'est de croître, de multiplier, de remplir la terre et de la dominer. Donc, là, il y a quelque chose qui colle pas, qui cloche. On arrive à une meilleure interprétation de ce que sont ces désirs en rapprochant ce texte de Genèse 3:16 à Genèse 4:7. Parce que là, Dieu, il s'adresse à Cain. Cain est furieux. Parce qu'il a présenté une offrande à Dieu sur laquelle Dieu n'a pas porté un regard favorable. Et il est furieux contre Dieu. Et Dieu lui dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et ici, Dieu parle du péché, il parle de l'orgueil, il parle de la colère injustifiée de Cain, qui veut prendre le contrôle du cœur de Cain. Et Dieu lui dit, lui montre comment retrouver la paix. Il lui dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Il l'invite à résister aux assauts du péché, à dominer le péché. Alors, à la lumière de Genèse 4:7, on comprend maintenant qu'en Genèse 3:16, où exactement la même expression est utilisée, Dieu dit en substance à la femme, « Tu désireras contrôler ton mari, mais il dominera sur toi. » Ça résonne en vous? Ça résonne en moi, fort. Donc, ce verset annonce qu'après la chute, les rapports hommes et femmes seront marqués par des conflits, des manipulations, des violences domestiques, des viols, des divorces, toute la misère du monde. C'est pas obligatoire, mais c'est une réalité. Et là, il faut faire un constat honnête, c'est que tous les couples sont composés de pécheurs qui ont un besoin absolu de la rédemption que Christ offre. Et ça, on le verra dans un prochain message, parce que j'aimerais rester sur ce thème, parce que c'est un thème très vaste. Mais en tout cas, dans les trois premiers chapitres de la Genèse, on peut aussi entrevoir un début de remède au conflit entre conjoints. Dans le processus de la compréhension, dans le processus de la création, c'est très évident quand vous lisez attentivement le Genèse 1 en particulier, dans ce processus de la création, Dieu n'a pas créé des éléments au hasard et a laissé et a conçu que ces différents éléments créés au hasard allaient entretenir des relations aléatoires entre elles. Non, il a tout ordonné. Il a tout ordonné. Il a donné l'herbe pour servir de nourriture aux animaux, pas l'inverse. Il a subordonné les animaux à l'autorité de l'homme, pas l'inverse. Votre chat ne peut pas dominer sur votre vie, même si vous l'aimez beaucoup. Mais comment est-ce qu'il a ordonné les rapports homme-femme? Eh bien, on peut le déduire de plusieurs faits concordants. Je les énumère rapidement. Adam a été créé le premier. Et vous savez ce que le droit d'aînesse signifie en Israël? Ça vient de là. La femme a été faite pour Adam, pour être son aide semblable. C'est Adam qui donne à son aide semblable le nom de femme et ensuite le nom d'Ève, ce qui relève d'une certaine autorité. C'est Adam que Dieu instruit à propos de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Adam que Dieu appelle et à qui il demande des comptes, alors que c'est Ève qui a péché la première. Et la malédiction qui frappe Adam concerne l'ensemble de la création, celle d'Ève concerne son rôle de mère et sa condition de femme. Alors on a là un faisceau d'indices qui suggère qu'au sein du couple, Dieu a confié le leadership à l'homme. Vous, vous êtes chrétien, mais si c'était une salle publique, je devrais partir en courant. Parce que c'est exactement ce que le monde déteste entendre. Simplement, il faut vite ajouter que, à la lumière de Genèse 1, ce leadership, l'homme doit l'exercer en se souvenant que comme lui, Dieu a créé la femme à son image, et que comme lui, elle a une part à jouer dans la domination à exercer sur la création. Et donc, on peut conclure cette méditation sur deux points qui sont hyper, hyper simples. C'est que face à la création, l'homme et la femme sont égaux en dignité et en autorité. La femme peut planter des arbres, elle peut être ingénieure, elle peut créer un business, comme le mari peut décider d'être médecin ou mécanicien ou boulanger. Tout ça, ce sont des manières de dominer la création. Et la femme a autant de liberté que l'homme, en principe en tout cas, pour faire ces choses. Et ensemble, ils ont mission de croître, multiplier, remplir la terre. Ça, c'est le premier point. C'est l'homme et la femme face à la création. Maintenant, l'homme et la femme, l'un vis-à-vis de l'autre. Eh bien, on doit dire, c'est pas la culture. C'est Dieu qui a établi le leadership de l'homme. C'est pas la culture. Or, aujourd'hui, les gens disent, ah, mais ça, c'est la culture. C'est les cultures patriarcales. C'est l'ancien temps. C'est plus pour aujourd'hui. Désolé. C'est l'ordre que Dieu a voulu pour sa création et pour le couple. Il a établi l'homme leader. Et dans cette relation, eh bien, la femme est tentée de prendre le contrôle. D'où les difficultés, d'où les tensions. Sans compter que les hommes peuvent être vraiment montrés beaux, faire preuve d'un grand manque de sagesse, d'un grand manque de compréhension vis-à-vis de la femme, ce qui rend les choses encore plus compliquées. Mais si on en revient au plan de Dieu, Dieu a établi l'homme leader, et à cause de la chute, la femme souffre. Parce que l'homme n'est pas parfaitement juste, et elle a envie de contester. Elle a besoin de prendre le contrôle, en fait, pour arranger un peu sa vie. Alors, vous voyez, ce sont les premiers éléments posés, mais ça ne nous donne pas une image suffisante de ce que Dieu, du plan que Dieu a pour la relation homme-femme. Et c'est pour ça que je vous propose qu'on continue de voir ce que la Bible dit pour affiner notre compréhension et pour arriver à un point où ce que nous dit la Bible nous réconcilie avec nous-mêmes, qu'on soit homme ou femme, et nous réconcilie avec l'autre sexe, pour retrouver l'harmonie, dans une certaine mesure, du départ. Parce que s'il y a de l'harmonie, être en couple, c'est la plus belle chose. C'est le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire. Alors voilà, nous sommes en chemin. Si je vous racontais les débats épiques que j'ai eus avec ma femme sur ces questions, vous pleureriez. Oui, parce que j'étais vraiment pas très éclairé. Je ne vous dis que ça. Est-ce qu'on prie? Vous seriez d'accord de prier? Ça vous donne envie de prier, de remercier Dieu pour sa belle création et ses bons projets pour nous. Soyez libres des prières courtes, mais qui montent de votre cœur.